France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
C'est le premier observatoire à porter le nom d'une astrophysicienne. L'observatoire Vera Rubin doit ouvrir ses yeux, aujourd'hui ou demain, pour sa première lumière. Quels sont ses objectifs ? En développement depuis près de 25 ans et en construction depuis 10 ans dans les montagnes chiliennes, ce télescope révolutionnaire s'apprête à bouleverser l'histoire de l'astronomie. Avec son miroir principal, exceptionnellement grand, et sa caméra numérique, la plus grande jamais construite, de près de 3 tonnes, il a pour mission de cartographier l'univers global. Et il ne s'appelle pas Vera Rubin par hasard. La pionnière a joué un rôle clé dans la reconnaissance scientifique de la matière noire. Cette exploration à très large échelle du ciel devrait révéler des phénomènes encore inconnus. Observatoire Vera Rubin, on y verra plus clair. Dominique Boutigny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche NRS au laboratoire d'Annecy de physique des particules. Et nous sommes en ligne avec Sandrine Thomas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe de la construction de l'Observatoire Vera Rubin. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct ici dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Nous postons pour vous tous les jours de nombreuses ressources complémentaires. Et c'est sur notre compte @sciencecqfd. Alors quels ont été les défis technologiques de ce projet ? En quoi diffère-t-il des télescopes déjà en fonctionnement ? Et quelles sont ces missions scientifiques ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais pour commencer, on donne la parole à celle qui a donné son nom à cet observatoire.
I study the universe, and that's a lot.
J'étudie l'univers, et c'est déjà pas mal. Je l'étudie depuis longtemps, et je suis bien, bien plus vieille que vous. Je pensais étudier une toute petite partie de cet univers. Mais ce n'est pas un travail nécessaire. Vous pouvez avoir une vie tout à fait merveilleuse sans avoir la moindre idée de ce que peuvent montrer mes travaux dans le détail. D'ailleurs, certains d'entre eux sont probablement faux. Mais on fait de son mieux. Mais ce dont je voulais vraiment vous parler, c'est de l'an 3000. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir apprendre grâce aux télescopes et aux personnes qui s'en serviront en l'an 3000 ? Mon hypothèse, c'est qu'il y a bien, bien plus d'univers que celui que nous considérons être comme le nôtre. Quand nous disons « notre univers », nous voulons dire par là tout ce que nous pouvons voir, y compris les limites de ce qu'il est possible de voir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres univers dans ce monde. Je suis prête à parier de l'argent, mais malheureusement, je ne serai plus là pour en tirer les gains. Je suis prête à parier qu'il y a beaucoup d'autres univers, dont certains sont plus vieux que nous et d'autres plus jeunes. Et je pense que d'ici l'an 3000, les plus avancés d'entre nous sauront faire des choses que nous ne savons pas faire. Par exemple, ils auront peut-être la capacité de nous rendre visite à nous, même s'ils ne peuvent pas nous parler, ou bien même s'ils n'utilisent pas le même langage que nous, ou bien même s'ils ne nous ressemblent pas.
Vera Rubin devant les étudiants de l'American University en 2011. Dominique Boutigny, il y a quelque chose d'émouvant à écouter cette pionnière parler comme ça des télescopes de demain.
Oui, tout à fait. Je ne connaissais pas du tout ce petit morceau de la vie de Vera Rubin, enfin cette interview. Et je le trouve extrêmement intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent. D'une part, l'humilité, je pense qu'on sent un peu au début. Et puis le côté visionnaire, quoi. Je trouve ça absolument extraordinaire.
Pour compléter ce portrait, hein, c'est Vera Rubin qui est née en 1928 aux États-Unis. La légende raconte que son père l'a aidée à construire un télescope en carton qu'elle a utilisé pour photographier le mouvement des étoiles. C'est aussi la première femme autorisée à utiliser le grand télescope du Mont Palomar aux États-Unis. Sandrine Thomas, on peut peut-être replacer qui est Vera Rubin, l'une des plus grandes astrophysiciennes du XXe siècle.
Oui, en effet, donc on est on parle de Vera Rubin comme une des personnes qui ont découvert ce qui était l'énergie noire et la matière noire, par exemple, en faisant justement ces études d'étoiles et de mouvements d'étoiles. Et donc, En tout cas, nous, de notre côté, nous sommes très honorés de pouvoir nommer notre observatoire en l'honneur de Vera Rubin, parce que justement, nous allons observer beaucoup de choses qui vont continuer ces études, continuer ces travaux. Et donc, oui, nous attendons avec très impatience les premières images et les premières données de notre observatoire.
Dominique Boutigny, en effet, elle n'a pas été la première à proposer l'idée de la matière noire, mais elle a contribué de façon décisive à l'établir comme un fait scientifique.
Exactement, elle l'a établi. C'est assez amusant parce que, là, en fait, les premières idées de la matière noire, Fritz Zwicky, bien avant, en fait.
Astronome suisse
avec une personnalité un petit peu particulière. Ce qui a peut-être été un peu à l'origine du fait qu'il n'a pas été tout de suite reconnu pour à sa juste valeur et aussi pour les découvertes qu'il avait faites. Mais Vera Rubin, justement, c'est les mesures systématiques sur une très grande période de temps, des vitesses de rotation, des étoiles dans les galaxies. Et puis finalement, ce résultat est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que, en fait, ça colle pas par rapport à ce qu'on attend. Il faut remettre en cause la vérité scientifique de l'époque et faire l'hypothèse de ce halo de matière noire qui entoure les galaxies et qui est actuellement la meilleure explication pour expliquer ce qu'elle observe avec ses instruments.
Alors, ce que va observer justement l'observatoire Vera Rubin, c'est partir à la quête de traces, de rechercher ce qu'est la matière noire et l'énergie sombre. Ça fait partie des objectifs scientifiques.
Oui, en fait, on peut même dire qu'il a été conçu pour ça au départ. Après, ses objectifs scientifiques se sont considérablement élargis. On en parlera certainement tout à l'heure. Mais à l'origine, il s'appelait le Dark Matter Telescope, c'est-à-dire le télescope à matière noire. Donc, il a été conçu pour ça. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire cette cartographie de la matière noire dans l'univers d'une manière systématique, avec un instrument totalement révolutionnaire. Du moins pour l'époque. Le télescope Vera Rubin est encore révolutionnaire, mais à l'époque où il a été conçu, c'est-à-dire vers 1998-1999, c'était vraiment quelque chose de totalement nouveau.
C'est ça, l'objectif initial, c'était de se concentrer sur la matière noire, mais avec l'énergie noire qui est devenue un sujet central en cosmologie, c'est devenu aussi un sujet pour ce nouvel observatoire.
En fait, c'était vraiment dans la continuité. Il y avait cette idée de cartographier la matière noire dans l'univers, et ensuite ça a évolué vers cartographier tout ce qu'on pouvait voir, mesurer dans l'univers, de manière à être capable de tirer des informations sur la matière noire, sur l'énergie noire ou énergie sombre, suivant comment on l'appelle, et de comprendre surtout l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à nos jours, et d'expliquer pourquoi on observe un univers tel qu'il est actuellement.
Sandrine Thomas, donc sa première conception date en effet de 1999, mais comment le projet Vera Rubin est-il né?
Donc, comme l'a dit Dominique, le projet s'appelait le Dark Matter Telescope en 98-99. Et ensuite, une petite équipe a mis en place des demandes de projet, des demandes de financement, qui a pris du temps. Mais en 2000, à peu près vers 2003, certains financements sont tombés. Et en 2008, on a commencé la construction du miroir dont vous parliez au début, du grand miroir, donc qui fait 8,4 mètres de diamètre. Mais ce n'est pas avant 2015 qu'on a commencé à mettre la première pierre de cet observatoire important, qui est Vera C. Rubin Observatoire. Et depuis 10 ans, nous avons construit ce magnifique projet.
Oui, vous, ça fait 10 ans que vous êtes sur ce projet, Sandrine Thomas. Aujourd'hui, c'est un lundi qui n'est pas comme les autres pour vous non plus. Comment ça se passe aujourd'hui pour cette première lumière?
Je viens d'arriver hier au Chili. Aujourd'hui, je suis à La Serena. Donc, l'observatoire de Vera C. Rubin est localisé au Chili, dans une montagne qui s'appelle Cerro Pachón. Nous allons monter ce soir pour potentiellement avoir les premiers photons qui vont arriver sur notre appareil photo gigantesque. Donc nous sommes très enthousiastes, nous avons très hâte de voir ces premières images.
Alors ça, ce sera les toutes premières images, mais quand seront disponibles les images de haute qualité, Sandrine Thomas?
Oui, donc là, nous prenons les premières images. Nous allons avoir plusieurs semaines de tests pour justement améliorer ces images pour qu'elles soient très nettes. Et ensuite, vers le mois de juin ou juillet, nous allons pouvoir les partager avec le monde. Donc, il va nous falloir quelques mois avant de pouvoir les envoyer au monde entier.
Très bien. Et Dominique Boutini, on parle de ces toutes premières images par rapport aux missions scientifiques de cet observatoire. Quelles sont ces missions? Quels sont ces objectifs scientifiques? On a évoqué évidemment la matière noire et l'énergie sombre, mais il n'y a pas que ça.
Alors, il y en a beaucoup. Là, pour comprendre les objectifs scientifiques, en fait, il faut comprendre un peu comment cet observatoire, ce télescope fonctionne. Et il y a deux choses. C'est un télescope qui est très grand champ. C'est-à-dire qu'il va photographier à chaque image qu'il va faire, en fait, chaque pose qu'il va prendre, il va prendre une très grande portion du ciel. Vous imaginez, vous voyez la taille de la pleine Lune, vous la reportez une quarantaine de fois, je ne sais plus combien c'est exactement, peu importe, une bonne quarantaine de fois, et ça c'est une image unique, une pose de 40 secondes du télescope. Donc c'est un télescope très grand champ, et je l'ai mentionné, donc une image toutes les 40 secondes, ça va très très vite, c'est-à-dire qu'on va faire des tas et des tas d'images. Donc très grand champ, très vite, ça veut dire qu'on va couvrir le ciel très très vite. Tous les 3 et 4 jours, on va voir photographier l'ensemble du ciel visible depuis le Chili. Et on va recommencer ça pendant 10 ans. Donc ça va nous permettre d'une part de voir tout ce qui change d'une nuit à l'autre. Donc si on va avoir des images de référence et puis on va prendre une nouvelle image et en moins de une minute, on va savoir tout ce qui est différent par rapport à l'image de référence. Donc ça va nous permettre de repérer des astéroïdes, des comètes, des étoiles variables, des supernovas qui peuvent être éventuellement extrêmement lointaines et nous servir pour faire de la cosmologie. Et puis, ces alertes vont être distribuées auprès de la communauté des scientifiques. Donc ça, c'est une première mission du télescope Vera-Rubin. La deuxième mission, ça va au contraire être de regarder ce qu'on appelle le ciel statique. C'est-à-dire qu'on va accumuler des images et des images et des images. On va les empiler. Chaque région du ciel étant photographiée plusieurs fois, on va additionner les images de manière à voir de plus en plus loin. Et chaque année, on va faire un grand catalogue où on va reporter la position, la luminosité, la forme des galaxies, des objets célestes qu'on aura enregistrés.
C'est ça, donc Vera-Rubin, cet observatoire, l'objectif c'est de créer deux types de catalogues, le catalogue du ciel transitoire et le catalogue du ciel statique. On a aussi pour ça affaire, Sandrine Thomas, à un télescope qui est conçu pour faire aussi des découvertes imprévues.
Oui, effectivement. Donc, comme l'a dit Dominique, nous observons le ciel complet, donc observable du Chili, toutes les 3-4 nuits, et nous faisons une image toutes les 40 secondes. Donc, cela permet vraiment de trouver dans le ciel tout ce qui bouge, tout ce qui est nouveau, tout ce qui apparaît, qui disparaît, tout ce qui change. Et donc, ça va permettre donc de voir et d'étudier des objets connus, des objets variables, des supernovas qui peuvent exploser. Ça va aussi nous permettre de découvrir des astéroïdes, par exemple, donc de voir si on peut trouver des choses qui bougent dans notre système solaire. Ça va aussi nous permettre de voir très loin et de voir des choses très faibles. Comme on l'a mentionné, c'est un télescope qui a une optique très grande. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir observer des objets de faible magnitude ou de faible luminosité. Et ça veut aussi dire qu'on voit des objets qui sont très lointains, des objets qui n'ont pas été découverts auparavant.
Alors, quelles sont les prouesses technologiques de ce télescope? D'où vient sa performance optique élevée? On y vient.
Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En En direct sur France Culture avec Dominique Boutigny et Sandrine Thomas, nous parlons du nouvel observatoire Vera Rubin qui ouvre ses yeux aujourd'hui au Chili. Le début de la cartographie proprement dite est prévu pour fin 2025. Le point de départ officiel des observations scientifiques est fixé à 2026. Avec ce télescope, c'est un nouveau gap technologique et écoutez, on revient de loin.
Le premier instrument qui est servi aux hommes pour l'exploration du ciel n'est autre que l'œil. Mais l'œil ne peut pas voir les étoiles faibles. Il ne permet pas non plus de voir séparément deux étoiles séparées de moins d'une minute d'arc environ. Les astronomes ont donc essayé d'augmenter leurs possibilités d'investigation dans deux domaines distincts. Augmenter les dimensions de l'instrument afin de collecter le plus possible de lumière. Augmenter son pouvoir séparateur afin de pouvoir séparer des étoiles que notre œil confondrait en une même nébulosité. Pour collecter le plus possible de lumière, il suffit d'augmenter le diamètre de la pièce d'optique collectrice, lentille ou miroir. Dès le XVIIIe siècle, on a compris la nécessité d'augmenter la dimension des objectifs de lunettes. Mais il n'est pas possible d'augmenter indéfiniment leur diamètre. En effet, un objectif est un disque de verre. Il doit être parfait, en surface, comme dans toute son épaisseur. S'il est grand, cette dernière condition est particulièrement difficile, presque impossible à remplir. De plus, les lentilles réfractent la lumière d'une façon qui dépend de la couleur. Par suite, les images des étoiles sont irisées et par conséquent mauvaises. Enfin, la lumière ultraviolette ne peut pas traverser le verre et il n'est possible de tailler en quartz transparent à l'ultraviolet que de fort petits instruments. Ces raisons ont conduit les astronomes à développer surtout les télescopes. Alors que la lunette de l'observatoire Dirks a 102 cm de diamètre, c'est la plus grande qui soit en service dans le monde, le télescope de Palomar à environ 5 mètres de diamètre. Il peut donc recevoir 25 fois plus de lumière. Les télescopes sont plus faciles à réaliser que les lunettes. En effet, l'objectif n'est plus une lentille, mais un miroir. Il suffit de polir une face, et non deux, et l'hétérogénéité interne du verre, à peu près inévitable, n'a plus aucune gravité.
Voilà un extrait de l'heure de culture française diffusée sur la RDF en 1952. Sandrine Thomas, quels ont été les défis technologiques pour la mise au point d'un tel observatoire? Avec lui, on a des avancées technologiques majeures, et notamment sur son miroir dont on entendait parler dans cette archive.
Oui, donc pour revenir à la surface collectrice de télescope, donc je l'ai dit, nous avons un miroir primaire qui fait 8,4 mètres de diamètre. Mais la partie la plus intéressante de ce miroir, c'est qu'en fait, ce sont deux miroirs en un. C'est-à-dire qu'on a à la fois notre primaire et notre tertiaire combinés en une seule pièce optique. Pourquoi nous avons fait ça? Au début, quand on a commencé les dessins optiques de ce télescope, une des contraintes, c'était justement d'avoir un grand champ de vue. C'était de pouvoir observer les 45 lunes dont Dominique a parlé en une seule image. Et pour pouvoir observer de face, avec une qualité d'image parfaite sur un champ de vue aussi grand, il fallait qu'on utilise un dessin optique avec au moins trois miroirs pour pouvoir corriger des aberrations, ce qu'on appelle des aberrations, c'est ce qui rend des images floues ou déformées. Et donc, pouvoir avoir une bonne une qualité d'image, il fallait qu'on ait au moins trois miroirs. Et les premiers dessins optiques que nous avons faits, en fait, ont montré que le miroir tertiaire était très proche du miroir primaire. Et donc, les personnes à l'époque, donc moi, j'étais pas impliquée, mais les personnes à l'époque ont pensé à mettre ensemble le miroir tertiaire et le miroir primaire ensemble. Donc ça a été révolutionnaire, en fait, dans notre télescope, parce que ça permet d'avoir vraiment une très bonne une qualité d'image et de rendre nos alignements beaucoup plus faciles.
Ça, c'est que Dominique Boutigny, l'innovation réside dans le fait que ces miroirs, les miroirs primaires et tertiaires, sont combinés sur une seule et même surface.
Oui, ça c'est vraiment très étonnant à voir. J'ai eu la chance la dernière fois où j'étais au Chili, il y a quelques mois en arrière, de voir le transport du miroir primaire tertiaire entre son lieu enfin à l'endroit où on l'a aluminisé, on a fait c'est son dépôt réfléchissant, et le voir au moment du transport pour l'installer sur le télescope, et c'est cet énorme miroir avec sa double courbure qu'on perçoit très très bien à l'œil, parce que la courbure est très très prononcée, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant à voir.
Sandrine Thomas, je lisais en préparant cette émission que ces miroirs ont été polis sous un interféromètre dans une installation située sous un stade de football américain aux États-Unis.
Oui, c'est exact. Donc le miroir primaire qui a été financé en partie par des fonds privés de Charles Simonyi et Bill Gates a commencé à être conçu en 2008 et effectivement toute la fabrication et ensuite le polissage et les mesures ont été faites sous un stade de football à Tucson. En Arizona.
Donc il a fallu faire tout ça évidemment sans jour de match. Alors on l'a dit, sa capacité à observer avec des champs de vision extrêmement larges. Et autre nouveauté, une des autres nouveautés les plus importantes, c'est sa caméra, Sandrine Thomas.
Oui, donc la caméra aussi participe à ce grand champ de vue. Et le grand challenge pour la construction de cette caméra a été la taille de ces optiques. Donc nous avons 3 lentilles et plusieurs filtres de couleurs. Nous avons 6 filtres de couleurs. Quand on parle comme ça de lentilles et du filtre, on pense à un petit appareil photo. Mais il ne faut pas oublier que cette caméra fait à peu près la taille d'une petite voiture. Les optiques sont de plus de 1 mètre, 1,6 pour la première. Donc, c'est vraiment compliqué à fabriquer avec une qualité optique qui permet justement d'avoir de très bonnes images au final et de polir. Et donc, ça a été vraiment un travail compliqué sur plusieurs années. Les filtres ont été commencés il y a à peu près une dizaine d'années. Pour vous donner une ordre de grandeur. Donc, ce ne sont pas juste des petits fils qu'on met dans un petit appareil photo qu'on peut acheter dans un magasin. Ça a pris énormément de temps et de tests pour pouvoir les fabriquer.
Dominique Boutini, sur justement ce travail de filtre de cette caméra qui permet de capturer des images d'une précision et d'une sensibilité inédite.
Un point qui est important aussi sur cette caméra, donc le plan focal, c'est-à-dire l'endroit où on va placer les capteurs de lumière, si on veut pouvoir faire les mesures qui sont nécessaires pour vraiment comprendre la cosmologie, on a besoin d'avoir une précision géométrique absolument extrême. C'est-à-dire que ce plan focal, il doit être parfaitement plan, et on ne doit pas avoir la moindre déformation géométrique au niveau du plan focal. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à réaliser et qui a nécessité énormément de travail. Alors la taille du plan focal, c'est quand même 3,2 milliards de pixels. Donc si vous comparez par rapport à un appareil photo numérique, vous voyez le nombre d'appareils photo numériques. Et en plus, ce sont des capteurs qui sont extrêmement sophistiqué, de manière à pouvoir être très sensible dans le proche infrarouge et avoir la meilleure réponse possible. Donc il y a eu un travail de recherche et de développement, et puis également pour tout ce qui est intégration de ces capteurs sur la caméra, qui a été absolument colossal.
Alors vous l'avez dit également tout à l'heure, c'est un télescope très rapide, stable. Sandrine Thomas, c'est un télescope qui doit s'immobiliser en 5 secondes pour pouvoir observer le ciel de manière continue. Donc pour ça, il faut qu'il soit robuste et stable. Comment on s'y prend pour stabiliser un tel outil ?
Oui, exactement. Pour pouvoir observer une image du ciel toutes les 40 secondes, nous avons un temps d'exposition de 30 secondes et à peu près 5 secondes de pour pouvoir bouger et stabiliser le télescope. Quand on pense à ce que ça veut dire, je veux juste essayer de mettre en perspective ce que c'est. Donc, par exemple, nous, quand on sort un téléphone de notre poche et qu'on veut prendre une photo, ça nous prend à peu près 3 secondes, 3, 4, 5 secondes pour que l'image, pour que nos mains se stabilisent et qu'on puisse prendre une image qui soit nette et qui ne soit pas floue. Là, nous parlons de 350 tonnes d'acier et d'optique qu'il faut bouger de façon à prendre une image qui est éloignée de à peu près 7 lunes sur le ciel. Donc, ça ne fait pas très grand, mais c'est quand même 350 tonnes. Et donc, il faut absolument que ce télescope arrive à sa position finale et soit prêt à prendre une image qui ne soit pas floue. Donc, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on a défini une structure du télescope qui est très compacte. Donc, si vous avez la chance de voir le télescope en réel, ce n'est pas un télescope habituel qui est assez long. C'est un télescope très carré. On pourrait le rentrer dans un cube. Bon, un cube de 10 mètres par 10 mètres, mais quand même un cube. Et ça veut dire que si l'on bouge ce télescope, la structure elle-même ne va pas vibrer, ne va pas avoir d'instabilité. Elle va vraiment se mettre en place et pouvoir faire en sorte de prendre une belle image très nette. L'autre partie, c'est que quand un télescope bouge comme ça, surtout avec des optiques assez lourdes, elle se déforme sur elle-même. Les optiques se déforment sur elles-mêmes. Excusez-moi.
Oh, je vous en prie. Nous arrivons à tous d'avoir déjà.
Et donc, quand les optiques se déforment sur elles-mêmes, nous avons tout un mécanisme derrière les optiques, un mécanisme d'actionneur qui permet de contrôler la forme de ces miroirs pour qu'elles puissent justement redevenir en place, qui permet d'avoir une image très nette. Donc, tout bouge dans le télescope. Il y a vraiment tout qui bouge et tout se met en place. Mais au moment de prendre la photo, tout est stable et tout est net.
Tout est pensé pour ne pas affecter la qualité des images. Alors là, on vient de parler des caractéristiques de ce télescope. Mais Dominique Boutini, quelle différence entre ce télescope et les autres? Si on prend Euclide, par exemple, qui a quitté la Terre le 1er juillet 2023, qui a lui aussi pour mission de sonder la matière et l'énergie noire, quelle différence entre ces deux outils?
Alors Euclide, c'est un peu le pendant de l'observatoire Rubin, mais dans l'espace. Alors, quand on est sur Terre, quand on est dans l'espace, on n'a pas les mêmes contraintes, et donc il faut s'adapter. Alors, sur Terre, on peut faire des, comme l'a dit Sandrine, on peut faire un système optique qui pèse 350 tonnes. Il est évident que si on essaye de mettre 350 tonnes dans l'espace, on va pas y arriver. On n'a pas de lanceurs qui sont capables de faire ça. On n'est pas capable de gérer un objet comme ça. Donc Euclide, même si lui aussi a un très grand champ, hein, puisque c'est vraiment le pendant dans l'espace de Vera Rubin, même s'il a un très grand champ, son miroir est plus petit. Par contre, il va avoir un gros avantage, c'est que lui, il est dans l'espace, donc il n'y a pas d'atmosphère, donc il va pas souffrir de la turbulence atmosphérique. Et puis il y a un autre gros avantage, c'est que comme il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de vapeur d'eau. Et s'il n'y a pas de vapeur d'eau, il va être sensible, beaucoup plus sensible dans l'infrarouge. Alors que Vera Rubin sur la Terre, lui, va être sensible au tout début de la fenêtre de longueur d'onde correspondant à l'infrarouge, mais ne va pas pouvoir observer dans l'infrarouge aussi lointain que Euclide. Tout ça pour dire qu'en fait, les deux projets sont quand même extrêmement complémentaires. Par contre, si on compare par rapport à un autre télescope spatial comme le James Webb ou comme un des télescopes terrestres comme le VLT, la différence est vraiment notable. Vous pouvez, par exemple, vous pouvez imaginer le James Webb comme étant si on fait l'analogie avec un appareil photo, comme étant un appareil photo avec un grand téléobjectif. Vera Rubin ou Euclide, c'est des grands angles. Donc c'est vraiment un appareil photo numérique avec un capteur numérique et un objectif grand angle.
Et l'autre différence également, hein, c'est la vitesse d'échantillonnage. Euclide réalise lentement son étude sur 6 ans. Pour Rubin, hein, c'est rapide et répété, on l'a dit, hein, ça fait un sondage complet du ciel toutes les 3 nuits. L'autre défi technologique de ce projet, c'est celui du traitement des données. 20 à 30 téraoctets de données vont être recueillis chaque nuit, le tout pendant 10 ans. Aucun autre télescope dans l'histoire n'a produit un tel flux. Comment les scientifiques vont-ils gérer cette quantité astronomique de données? Restez avec nous. You need telescope eyes you loved, I'd leave. But I wanted to die like I lived all alone, I'd see. You need telescope eyes you loved, I'd meet. But I wanted to die like I'd lived all alone, I'd see. Fourth you drown in the wonder, I keep it down, you go under. Oh, I was yours and you were fine. Frail, Telescope Eyes, en direct sur France Culture, car nous parlons du nouvel observatoire Vera Rubin, qui ouvre ses yeux aujourd'hui au Chili. On en parle avec nos deux invités du jour, Dominique Boutini, directeur de recherche CNRS au laboratoire d'Annecy de physique des particules, et Sandrine Thomas, directrice adjointe de la construction de l'observatoire Vera Rubin. On vient de voir qu'il possède la plus grande caméra numérique au monde. Ce télescope a pour mission d'observer le ciel en profondeur, sur le court terme et sur le long terme. L'autre défi technologique de ce projet, c'est donc celui du traitement des données. Sandrine Thomas, au niveau de l'observatoire, au Chili, on obtient donc des images dans différents filtres, avec des couleurs différentes. Mais que va-t-il se passer ensuite pour ces images ?
L'observatoire Vera C. Rubin n'est pas juste un télescope et une caméra. C'est ce qui est très différent par rapport à d'autres télescopes terrestres que l'on a aujourd'hui. Et donc, il y a toute une partie de traitement de données qui a aussi été mise en place dès le départ du projet pour justement faire en sorte que les utilisateurs aient leurs images et des catalogues déjà tout prêts, tout faits pour pouvoir répondre à leurs questions astronomiques. Alors, comment on fait ? Déjà, une grosse partie de technologie, de prouesse technologique, finalement, c'est de transférer les données du Chili en Californie très rapidement. Nous parlons ici de 7 secondes. Quand on y pense, c'est vraiment énorme quand on doit faire passer 7,2 gigabytes ou gigaoctets de données en 7 secondes. Une heure de vidéo, j'ai un peu fait des recherches, et une heure de vidéo, en fait, on dépense à peu près 0,5 gigaoctets. Donc, juste pour mettre en perspective un petit peu ce qui se passe. Donc, nous avons créé des connexions très rapides et le projet a aussi travaillé avec plusieurs pays, dont le Brésil, par exemple, pour améliorer la qualité du réseau, pour pouvoir transférer toutes ces données du Chili en Californie. Et nous avons aussi deux lignes redondantes qui permettent de toujours pouvoir les transférer. Donc, si jamais il y a une ligne qui tombe en panne, nous avons une autre ligne pour pouvoir les amener, un autre réseau pour pouvoir les amener en Californie. Mais la Californie, où se passe une grosse partie du traitement des données, n'est pas le seul centre de traitement au monde. Nous avons aussi la France et nous avons aussi l'Angleterre. Donc, je peux m'arrêter là au niveau du transfert des données. Et derrière, nous avons justement ces centres de données qui ont un pouvoir de calcul énorme et qui permettent d'analyser très rapidement des images pour donner plusieurs produits. Et un des produits principaux qui doit être fait très rapidement, ce sont ce qu'on appelle les alertes. Donc, quand on regarde des images, les unes après les autres, on va pouvoir détecter très, très rapidement tout ce qui bouge, tout ce qui change. Et ça va créer des alertes qui vont être récupérées par la communauté scientifique pour éventuellement aller plus loin dans la recherche, soit utiliser d'autres télescopes, soit analyser ces images en temps réel.
Oui, ces alertes qui en effet concernent tout ce qui change dans le ciel, ces données du ciel transitoire, on en attend environ 10 millions par nuit, Dominique Boutini ?
Oui, c'est ça, 10 millions par nuit, ça paraît absolument phénoménal. Alors, ça nécessite de mettre en œuvre des technologies qui sont vraiment dédiées pour ça. Alors, l'observatoire Rubin, lui, il va émettre ses alertes sous la forme d'un flux de données. C'est-à-dire son travail, c'est d'émettre ce flux de données. Et ce flux de données va être capté par un certain nombre de centres de calcul qu'on appelle dans notre jargon des brokers. C'est-à-dire en fait des intermédiaires en quelque sorte qui vont être capables d'attraper ce flux de données au vol, de le traiter, éventuellement de l'enrichir et surtout de le classifier. C'est-à-dire que, bien entendu, aucun humain n'est capable d'absorber 10 millions d'alertes chaque nuit. Donc, il va falloir vraiment faire travailler sur ces mécanismes de filtrage, de manière à dire, bon, par exemple, si je suis intéressé par les supernovas de type 1A, de dire, bah voilà, sur ces 10 millions d'alertes, je m'intéresse à la quelques dizaines ou les quelques unités de nouvelles supernovas qui ont telle et telle catégorie, et je vais m'abonner à ce broker pour récupérer ces alertes intéressantes.
On a les données du ciel transitoire, mais on a aussi les données du ciel statique, Dominique Boutigny.
Voilà, c'est un autre challenge. Les données du ciel transitoire, faut aller très très vite. Les données du ciel statique, là, par contre, on va accumuler les données pendant une période longue, ça va être typiquement de l'ordre d'une année. On va attendre une année, on va recueillir ces données, les stocker. Et ensuite, on va faire un traitement sur toutes les données qu'on a récupérées depuis le début du télescope. C'est-à-dire que chaque année, on va faire un retraitement complet de l'année en cours, plus de l'année avant, plus les années, etc. avant. Et donc, à la dernière année, on aura à traiter les 10 ans complets de données qui auront été accumulées.
10 ans complets de données accumulées, ce sont des chiffres qui mettent un peu le vertige. Je les ai, la quantité totale de données sera supérieure à celle de tous les livres écrits dans l'histoire, Sandrine Thomas. Au cours de ces 10 ans de travail, Vera Rubin aura collecté 60 pétaoctets de données. Alors face à tant de données, à tant de flux, l'important en effet, c'est de collaborer.
Effectivement. Donc, j'avais un peu regardé au niveau de tout ce qu'il y avait écrit. Il y a une bibliothèque, la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis, et qui est une des bibliothèques les plus importantes et complètes au monde, qui a 21 pétaoctets. Donc, en 10 ans, nous aurons écrit 3 fois plus de données que tout ce qui a déjà été enregistré dans cette bibliothèque. Et effectivement, ça demande une collaboration très, très importante. Donc, non seulement au niveau du projet lui-même pour fabriquer ces données à partir des images qu'on a obtenues, mais on parle aussi de 28 pays au moins différents qui participent à la collaboration scientifique qui permettent d'analyser ces données et de les transformer en découvertes astronomiques finalement.
Parce qu'on peut aussi restituer ensemble l'ampleur de la collaboration internationale, Sandrine Thomas. À qui ces données vont-elles servir?
Ces données vont servir principalement au départ aux collaborateurs principaux qui ont été les États-Unis. Donc il faut rappeler que l'observatoire de Vera C. Rubin a été financé par la NSF, donc c'est la National Science Foundation, et aussi le département d'énergie, DOE, aux États-Unis, et il est situé au Chili. Donc le Chili et les États-Unis sont des principaux pays qui auront accès aux données. Également la France, qui a été très importante pour la fabrication de la caméra, et comme l'a dit Dominique aussi, au niveau du traitement des données, ainsi que l'Angleterre. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons créé un réseau de collaboration avec beaucoup plus de pays européens, en Afrique du Sud, aux États-Unis, tout autour du globe finalement, pour justement faire en sorte que d'autres pays puissent avoir accès à ces données. Et donc toutes ces collaborations, que ce soit des collaborations techniques ou scientifiques, ont été très importantes pour nous et très importantes pour le monde astronomique. Justement, car ils vont avoir accès à ces données beaucoup plus rapidement que s'il n'y avait pas cette collaboration. Les données sont, juste pour donner un petit peu un ordre de grandeur, ces données seront accessibles à tout le monde après 2 ans d'observation.
Voilà, elles vont devenir publiques, accessibles à l'ensemble de la communauté scientifique mondiale. On peut penser évidemment au projet de science participative. Dominique Boutigny, vous êtes vous aussi impliqué dans la gestion des 40% des données collectées et attribuées aux chercheurs français pour l'analyse?
Oui, en effet, on a la CNRS, un des instituts du CNRS qui s'appelle l'IN2P3, l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules, a la chance d'avoir un gros centre de traitement de données qui se trouve à Villeurbanne et s'appelle le CCIN2P3. On n'est pas très original. Ce centre de traitement va en effet récupérer et traiter 40% des données de l'observatoire Rubin. Ces données, une fois traitées, vont être remises en commun avec celles qui seront traitées aux États-Unis et celles qui seront traitées en Grande-Bretagne, de manière à créer le jeu complet de données.
Vous avez, je croyais que vous alliez nous dire encore autre chose. Mais alors, comment vont être utilisées ces données? Comment vont-elles nous servir? Restez avec nous.
France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous parlons de l'observatoire Vera Rubin avec Dominique Boutini et Sandrine Thomas. Le télescope Simony sera doté donc de la plus grande caméra jamais conçue pour réaliser ces grands relevés. Des données massives qu'il sera nécessaire de bien traiter et de corriger ensuite afin de cartographier les galaxies. Pour comprendre comment, nous sommes allés découvrir les méthodes utilisées en IA au laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Université Paris-Cité. C'est le reportage du jour et c'est avec vous Céline Lozanne. Bonjour.
Bonjour Natacha. La mise en route du télescope Simony du Vera Rubin Télescope, prévue fin 2025, suivra une cadence de capture d'images de 20 teraoctets par nuit sur une période de 10 ans, générant un océan de données qu'il faudra analyser, corriger et traiter pour arriver non seulement à cartographier des milliards de galaxies, mais aussi à résoudre des problèmes optiques, parmi eux l'effet de lentille gravitationnelle qui induit des aberrations optiques, et notamment le blending. Deux galaxies situées sur une même ligne de visées ne sont pas forcément à la même distance de nous. L'astrophysicien Éric Aubourg, au laboratoire APC de Paris-Cité et responsable du LSSC, a travaillé avec ses doctorants sur la mise au point de nouvelles techniques d'apprentissage automatique pour résoudre ces problèmes.
Donc là, on cherche à mesurer les petites variations de forme des galaxies qui sont dues à la matière qui est en avant-plan, qui vont donc déformer le parcours de la lumière. Donc les galaxies sont très légèrement déformées, leur ellipticité va varier de l'ordre d'1% à cause de la présence de la matière qui est devant, et on veut justement faire une cartographie de la matière qui est devant grâce à ce phénomène. Mais avec un télescope comme LSST qui voit très profond, il voit énormément de galaxies, donc en fait plus de la moitié des galaxies qu'il détecte ont une autre galaxie superposée qui est sur le même chemin optique, mais qui n'est pas à la même distance, qui va être derrière ou devant. Et on veut mesurer les formes de ces galaxies individuellement, donc on veut vraiment mesurer les déformations des galaxies quand elles sont à des distances différentes, on veut les mesurer individuellement.
C'est ce phénomène qu'on appelle le blending.
C'est ça, donc en anglais c'est le blending, c'est un effet de confusion, c'est-à-dire qu'on a deux galaxies qui se superposent et on veut pouvoir mesurer les formes. Donc on veut les séparer en fait. Et ça, c'est un problème qui est mathématiquement assez complexe. Il y a des méthodes qui vont utiliser, par exemple, le fait que les galaxies, elles ont un centre de symétrie. Donc, on peut essayer d'utiliser ces propriétés pour les séparer. On peut essayer de construire des modèles des galaxies. Nous, ce qu'on a essayé de faire depuis quelques années, c'est de faire des réseaux de neurones auxquels on va apprendre à quoi ressemble une galaxie dans un premier temps. Et puis après, on va leur apprendre à séparer les galaxies, c'est-à-dire quand on leur présente une image qui contient deux galaxies proches légèrement superposées, ils vont être capables de nous reconstruire les images individuelles des galaxies comme si elles s'étaient séparées. Et puis on peut même aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que si ces réseaux de neurones sont capables de nous séparer les galaxies, c'est que dans leur espace latent, ils ont en fait les caractéristiques de chacune des galaxies. Donc en fait, ce qu'on cherche à mesurer la forme des galaxies, c'est ça, ce qu'on essaye de faire en ce moment, c'est que c'est même pas la peine de reconstruire les images individuelles, on peut directement mesurer les formes des galaxies dans l'espace latent du réseau de neurones.
Ils sont réductibles à leur morphologie.
Voilà, c'est-à-dire que le réseau de neurones encode dans son espace latent la morphologie de chacune des galaxies, et Alors, on reconstruit les images pour montrer que la méthode fonctionne, mais en fait, ce qu'on essaye de faire en ce moment, c'est de remesurer directement dans l'espace-temps les caractéristiques intéressantes des galaxies.
Ça marche pour des galaxies assez stéréotypées, qu'on arrive à catégoriser comme les spirales, spirales barrées, amaglobulaires, etc. Et les irrégulières, par exemple, elles échappent à cet outil-là?
Non, alors en fait, tout l'intérêt de l'outil, c'est qu'on lui apprend à quoi ressemble une galaxie à partir d'un échantillon de vraies galaxies, isolé. Et donc, en fait, il est capable, on n'a pas besoin de modéliser à la main toutes les différentes sortes de galaxies. En fait, on a un système qui fait de l'auto-apprentissage, on n'a même pas besoin de labelliser les données à l'origine. Il suffit d'avoir une grande quantité de galaxies isolées qui peuvent être soit simulées, soit des vraies galaxies dont on sait qu'elles n'ont pas de voisines.
On va les rechercher.
C'est des méthodes qui préexistaient déjà, on s'imagine, parce que même sans parler de quantités aussi énormes que 20 teraoctets par...
Les éléments qu'on utilise pour construire ces réseaux de neurones existaient, mais le fait de les combiner de cette façon-là, non, ça c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on a utilisé des objets qu'on appelle des auto-encodeurs variationnels, qui sont des réseaux de neurones qu'on entraîne sur une tâche qui leur permet en fait de mémoriser la structure des données qu'on leur présente, c'est-à-dire on les entraîne à reproduire leur entrée. Ça peut sembler sans intérêt, mais en fait, comme il y a une sorte de goulot d'étranglement dans l'architecture du réseau, et je dois avoir un exemple quelque part ici, voilà. En fait, on lui apprend à reproduire son entrée, mais on le force à le modéliser sous la forme d'un nombre réduit de paramètres. Ça marche avec des galaxies, ça marche avec des chiens et des chats aussi, hein, ça marche avec tout. Alors, ce réseau-là, du coup, cette partie-là va apprendre, quand on lui donne un tableau de nombres qui représente les caractéristiques d'une galaxie, mais en fait, c'est lui qui a inventé comment ça se représente, il est capable de construire une galaxie. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que l'astuce, c'est qu'on garde ce décodeur qui, lui, sait transformer ce tableau de paramètres en une galaxie, et on change l'entrée, là, l'encodeur, et cet encodeur, on lui apprend à transformer un paquet de galaxies en la galaxie centrale uniquement toute seule.
Ah oui, on voit bien la différence entre les deux photos.
Ici, on a plusieurs galaxies qui se superposent, et le réseau apprend en fait à nous isoler celle qui est au milieu de la petite vignette. Puis on peut recommencer sur celles qui sont à côté, donc en fait, on a du coup la forme de chacune des galaxies.
C'est impressionnant, parce que pour un œil humain, évidemment, c'est assez naturel, mais pour une machine, c'est une prouesse.
Alors, c'est justement ça qui est intéressant avec les réseaux de neurones et le traitement d'images dans les réseaux de neurones, c'est qu'en fait, si c'est quelque chose qu'à l'œil, vous réussissez à faire, un réseau de neurones ne sera pas mauvais pour le faire, alors que ça peut être très compliqué de faire un modèle mathématique qui va le faire. Et du coup, en fait, dans ce tableau de paramètres, là, on a tout ce qu'il faut pour reconstruire la galaxie, donc on a notamment tous ces paramètres de forme. Donc en fait, on a eu tout un historique là-dessus sur l'application du machine learning à l'analyse de données LSST. Donc on a ces travaux qui sont vraiment sur le traitement des données pour mesurer les ellipticités. Donc on a eu deux thèses à la suite sur ces sujets-là, hein, Bastien Arcelin et Biswajit Biswas. Et puis plus récemment, on a eu aussi une thèse où là, on s'est intéressé vraiment plutôt vers la fin du pipeline de traitement de données, quand on va essayer de transformer tout ça en contraintes sur les paramètres cosmologiques. Par exemple, la quantité de baryons dans l'univers, la quantité de matière noire. Et puis, là, ce qui nous intéresse beaucoup dans l'SST, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire, qui est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Et on voudrait savoir si cette énergie noire, elle est statique ou dynamique. Donc, on a plusieurs manières de la paramétriser. Et il y a eu les résultats récents de DESI qui semblent indiquer que peut-être elle serait dynamique, évolutive. Donc effectivement, on peut la paramétriser simplement avec, par exemple, ce qu'on appelle W et WA, c'est-à-dire l'équation d'état de l'énergie noire et puis sa variation avec le temps.
Merci Céline Lezenne. Pour retrouver toute notre collection de reportages en immersion, rendez-vous sur l'appli Radio France, c'est la collection La Science au Labo. Sandrine Thomas, votre réaction à l'écoute de ce reportage?
C'était très intéressant et très fascinant. Nous sommes très intéressés par l'intelligence artificielle. Mais la première chose qui me vient à l'esprit quand j'entends ce reportage, outre le fait de la technique, c'est de dire que toute intelligence artificielle est dépendante de la quantité et de la manière dont on éduque l'intelligence artificielle, en fait. Je n'ai pas le mot en français, le mot en anglais me vient « training ».
On entraîne, voilà, une intelligence artificielle.
Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'énormément de galaxies pour pouvoir faire en sorte que cette intelligence artificielle soit robuste. Mais aussi, on a besoin d'une qualité d'image à l'entrée très importante. Eric parlait d'ellipticité. Donc, on veut vraiment mesurer l'ellipticité des galaxies, la comparer au modèle. Mais ça veut dire qu'au départ, nous avons besoin d'une qualité d'image qui soit absolument parfaite. On ne veut pas, par exemple, confondre une ellipticité qui est introduite par le système optique par rapport à une ellipticité qui vient en fait des galaxies qu'on a observées. Donc, il y a un mélange de contraintes techniques au niveau de la construction du télescope, autant que des contraintes sur l'intelligence artificielle au niveau du training, je vais le dire en anglais.
Mais justement, à propos de robustesse d'image, Sandrine Thomas, comment évaluer le bon fonctionnement du télescope à la fois en temps réel et sur le long terme ?
Ah, c'est une question très intéressante. En fait, nous avons tout un système de ce qu'on appelle télémétrie, un système d'écoute du télescope, de la caméra, même du traitement des images, qui nous donne des informations sur comment se porte le télescope. J'aime bien le comparer à nos données vitales, en fait. Notre tension, notre température, notre taux de glucose dans le sang. Donc, on écoute le télescope tout le temps. On essaie de mesurer la position des miroirs, la position du télescope, la température autour du télescope, les retours sur le flux qui arrive sur le détecteur. Donc, on essaie de tout le temps écouter ce qui se passe, même plus qu'une fois par seconde, en fait. Et le rythme est assez rapide pour vraiment avoir une compréhension de comment ça se porte et si tout va bien, ou si on doit fermer, ou si on doit le réparer.
C'est ça, toutes les 10 millisecondes, toutes ces informations sont collectées en temps réel et elles permettent un retour rapide pour corriger toute anomalie. Dominique Boutigny, vous intervenez à plusieurs niveaux dans le projet. En ce moment, vous participez à la phase de commissioning. En quoi consiste cette étape capitale pour cet instrument?
Le commissioning, c'est une phase que je trouve, moi personnellement, que je trouve extrêmement intéressante. C'est-à-dire que on a le télescope qui est fini ou quasiment terminé, et il faut amener ce télescope à opérer de la meilleure manière possible. Et là, pour ça, comme l'a dit Sandrine, on va avoir à notre disposition tout un ensemble, une quantité énorme de données de télémétrie. Et il va s'agir de trouver quels sont les bons paramètres à observer pour comprendre comment le miroir se comporte. Bon, par exemple, moi, une des choses sur lesquelles je travaille beaucoup en ce moment, c'est sur les accéléromètres qui sont situés sur le miroir pour comprendre s'il y a des petites vibrations qui viennent s'introduire, qui sont liées à un ventilateur ou à des phénomènes extérieurs, en fait, qui vont faire vibrer le miroir. Et comprendre à partir de ces accéléromètres quelle est caractérisée exactement cette vibration et savoir comment cette vibration va se traduire par un petit mouvement sur le miroir et savoir si ce mouvement il est compatible avec les performances optiques que l'on attend, donc si on peut le négliger ou si au contraire est-ce que ça fait vraiment bouger le miroir d'une manière excessive, auquel cas il faut intervenir dessus et trouver une réparation, une parade.
Et pour conclure, côté recherche fondamentale, Dominique Boutigny, vous vous concentrez sur les amas de galaxies, hein, ces structures massives qui sont liées entre elles par la gravitation. Pour conclure, des données sur lesquelles vous allez pouvoir travailler, ce sera quand ?
Ah, on espère quand même avoir un premier sous-ensemble de données qui d'ici la fin de l'année, mais qui va être un petit avant-goût de la suite. Mais ça sera vraiment, on va pouvoir vraiment commencer à faire la science en profondeur après au moins un an de données qui seront accumulées. Et là, effectivement, on espère bien voir ces amas de galaxies et pouvoir faire des mesures dessus pour comprendre la cosmologie.
On attend ça. Nous aussi, avec impatience. Comme tous les jours, on retrouve la chronique Avec Science. Mais merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, on quitte le cosmos pour les neurosciences. Comment le cerveau contrôle-t-il la conscience ? C'est la chronique d'Alexandre Morales.
Comment le cerveau contrôle-t-il la conscience ? Commençons peut-être par nous interroger sur ce dont on parle quand on évoque la conscience. Alors, il y a l'état de conscience, donc le sommeil, l'éveil, le coma, etc. Et puis, il y a le contenu conscient qui désigne plutôt les souvenirs, les perceptions, l'ouïe, le toucher, l'odorat, vous les connaissez, qui peuvent être conscients ou alors traités de manière non consciente. Alors, on a quelques informations sur la façon dont la conscience se manifeste dans le cerveau. On a déjà pu observer non pas une, mais plusieurs aires cérébrales qui semblent impliquées dans ce processus et qui ont l'air de travailler ensemble. Mais jusqu'ici, la recherche s'est beaucoup concentrée sur le cortex, la partie externe du cerveau, parce qu'elle est beaucoup plus accessible. Et de fait, on connaît beaucoup moins bien le rôle des structures sous-corticales, donc plus profondes dans le cerveau. Et c'est justement une analyse du thalamus, donc une de ces structures profondes que nous propose cette nouvelle publication parue dans la revue Science. Claire Sergent est professeure en neurosciences cognitives à l'université Paris-Cité et au CNRS.
Ce qui est intéressant, c'est que le thalamus, son rôle de relais pour l'information sensorielle, pour quasiment tous les sens, l'audition, la vision, la somatosensation, donc toutes les sensations qui viennent du corps, bien sûr, le placer comme une structure qui serait au tout départ du traitement de l'information sensorielle. Ce qui est remarquable dans cette étude, c'est la méthode qu'ils ont pu employer. Là, ils ont pu avoir accès à des patients humains qui avaient des électrodes implantées à la fois dans le thalamus et dans le lobe frontal du cortex. Pour quelles raisons ces patients avaient des électrodes implantées ? Bien sûr, pas pour des raisons de recherche, mais pour des raisons cliniques, c'est-à-dire que ces patients présentaient des migraines qui étaient résistantes au traitement pharmacologique.
Et une des façons alternatives de soulager ces patients est de stimuler certaines parties de leur cerveau via de petites électrodes, donc, dont on peut aussi se servir pour mesurer très finement l'activité neuronale. Les auteurs ont inclus 5 patients qui avaient, on l'a dit, des électrodes à la fois dans le cortex préfrontal, la partie extérieure du cerveau, et dans le thalamus, donc au centre du cerveau. C'est la première fois qu'on a accès à des données fines aussi profondes à l'intérieur du cerveau. Alors, ensuite, les auteurs ont utilisé une méthode assez classique. Les sujets devaient regarder fixement le centre d'un écran et de petites rayures apparaissaient dans leur champ de vision. Puis, on leur demandait de faire un mouvement des yeux pour dire s'ils avaient vu ou non le stimulus qui était toujours le même. Mais alors, pourquoi dans certains cas le voyaient-ils consciemment et dans d'autres non ? En fait, c'est grâce au contraste du stimulus. Si un dessin apparaît avec un très fort contraste, vous allez le voir à tous les coups. Par contre, si le contraste est trop faible, vous ne le verrez jamais. Alors les chercheurs ont trouvé un niveau médian, de telle sorte que le stimulus était dans la moitié des cas, c'est ce qu'on appelle le contraste seuil. Et ils ont remarqué effectivement une activité spécifique de certaines parties du thalamus quand les participants prenaient conscience de l'apparition du stimulus.
Il faut reconnaître aussi la qualité des analyses qu'ils ont menées, où ils ont vraiment regardé comment le thalamus et le cortex préfrontal communiquaient à travers un dialogue entre leurs types d'oscillations. En fait, dans toutes les structures cérébrales, on voit des oscillations, c'est-à-dire que globalement, l'activité augmente, puis diminue selon certains rythmes qui peuvent être assez complexes. Et donc, ce qui est très joli, c'est qu'on voit que la prise de conscience a l'air d'être associée à la synchronisation de ces deux aires. Et ça, ça colle très bien avec plusieurs modèles de la conscience qui suggèrent que la prise de conscience, ce n'est pas l'activité d'une aire cérébrale, mais au contraire, un dialogue entre différentes aires cérébrales qui permettent de maintenir cette information vivante dans le réseau et de la rendre saillante pour tout un tas de fonctions cognitives.
Et pour finir, pourquoi, dans certains cas, les participants parviennent-ils à repérer le stimulus tandis que dans d'autres, ils en sont incapables ? Alors, on l'a vu, le contraste joue un rôle, mais la réponse neuronale serait liée à l'activation préalable du thalamus. C'est-à-dire qu'à contraste égal du stimulus, les participants ne parvenaient à le repérer que si le thalamus était déjà préactivé, en quelque sorte. On voit donc poindre ici une piste de recherche pour étudier pourquoi pas les mécanismes de l'attention dans lesquels le thalamus pourrait jouer un rôle, même si les auteurs n'en parlent pas en ces termes.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Eve Etienne, Céline Lausanne, Louanger, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Noémie Naguet de Saint-Vulfran. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Marie-Claire, Oumabadi. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.